À la tribune, le duc. Parmi les objections qu'on nous a opposées, il en est une en vertu de laquelle on espère établir que tout emblème n'est au fond qu'une parure oiseuse, une sorte de frivolité. Quelque valeur qu'on puisse accorder à cette opinion, nul ne saurait contester, sans nier l'évidence, qu'elle n'est professée jusqu'à ce jour que par une excessive minorité des habitants de notre planète. Donc, pour l'immense majorité de nos semblables, j'ai le droit d'affirmer que la couronne est, en Europe, le complément réglementaire du costume officiel d'un chef d'État moderne. Elle est d'uniforme. Sans dispenser, n'est que jouer aux travestis. Tout élu de Dieu ou du peuple, pour ne point faire tache sur le tableau, doit se soumettre à l'usage de la cindre. L'on doit être correct et d'ordonnance, de son siècle enfin. Le progrès, basé sur l'éclectisme, nous prescrit de ne rien exclure d'utile ou d'opportun. Toute omission du diadème au front d'un chef d'État n'est qu'une infraction de l'irrégularité la plus choquante, un manque de tenue qu'aucune arrière-pensée avouable ne saurait justifier. Une parure de plus ou de moins n'augmente à, ni ne diminue à jamais la valeur intrinsèque que de personne, et l'on peut porter une couronne sans cesser d'être un homme supérieur. Il y a même quelques exemples du fait de ces Sésostris à Salomon, de Salomon à Marc Aurèle, de Marc Aurèle à Charlemagne, de Charlemagne à Saint-Louis, de Saint-Louis à Bonaparte. Si, à l'aide d'un grave sourire, on pense pouvoir éluder cette nécessité, l'on risque au moins de passer pour une sorte d'original, de Don Quichotte qui veut s'afficher en frondant les exigences de la mode. Dès lors, si l'on persiste en ses allures, la chose devient une affectation d'inconvenance qui refroidit insensiblement l'indulgence initiale des sourires. Lorsqu'on ne peut se distinguer que par une sorte de négligence du goût le plus contestable, l'on finit par gêner tout le monde, sinon soi-même. Concluons, le manque systématique de diadème n'étant qu'une protestation négative, ne saurait constituer un brevet de capacité suffisant pour légitimer les pouvoirs conférés au chef d'une nation. Le sénateur. Nous répondrons tout bonnement que la couronne est l'emblème officiel d'une tradition incompatible avec les principes républicains dont nous avons fait serment de sauvegarder en tout et partout l'intégrale dignité. Le duc. Mais alors dans ce cas, quel but avoir naguère envoyé un ambassadeur extraordinaire au couronnement d'un empereur pour féliciter en son auguste personne le triomphe d'un principe ennemi des vôtres ? Pour attester une alliance ? Oh, croyez-vous, les mesures de courtoisie de ce genre n'ont de sens qu'entre gens couronnés, chacun d'eux ne voulant féliciter dans l'autre que la consécration solennelle d'un principe supérieur, en un passant de plus. Si c'est uniquement de la santé de l'empereur Alexandre III que M. de Waddington est allé s'enquérir à Moscou, ce n'était pas la peine de se déranger, ni de grever le budget d'une dépense inutile. Si c'est un simple curieux, n'espérant contempler dans le tsar qu'une sorte de roi nègre, que ce diplomate a tenu à faire ce voyage, ne pouvait-il risquer l'aventure à ses frais et remplir sa mission sous un modeste incognito ? Mais si c'est vraiment un représentant de la France républicaine qu'il a dû parader dans ses fêtes, c'est qu'alors les principes de 89 sentent déjà leur Moyen-Âge. Car en vérité, la Convention, devant la seule proposition d'un tel mandat, n'aurait probablement répondu qu'en allégeant d'emblée de la tête le courtisan mal avisé qui s'en fut fait le promoteur, le sénateur. Mais il est des intérêts internationaux dont la juste importance prime de nos jours l'apparente valeur de ces vains scrupules. Les rois ont reconnu la République française et les relations entre voisins sont obligatoires. Mais histoire ancienne, tout cela. Le duc. Les rois, monsieur le sénateur, ne peuvent pas plus reconnaître la République que la République ne peut reconnaître les rois. C'est un simulacre auquel se prête l'étranger, par une politique aussi dédaigneuse qu'intéressée. Et puisque les conservateurs actuels de la République se résolvent par esprit soi-disant de patriotisme à de tels compromis qu'ils systématisent au moins leur illogisme, qu'ils concilient à la fois leur austérité et leurs intérêts, en soumettant M. le chef de l'État à l'innocente formalité de se couronner comme tout le monde. Le sénateur. Mais M. le duc, il est au moins paradoxal de prétendre que, sous prétexte de régularité, l'honorable président de la République française doive s'affubler d'une couronne, emblème, disons-nous, d'une sorte de souveraineté que nous répudions. Le duc. Mais la République ne proclame-t-elle pas la souveraineté du peuple ? Et la plus haute expression du suffrage universel n'est-elle pas représentée par M. Grévy ? Si donc le signe officiel du pouvoir exécutif brillait sur le front du président, le peuple n'y pourrait reconnaître que la majesté de son propre droit et se sentirait couronné lui-même en son élu. En d'autres termes, pourquoi M. Grévy reculerait-il ici devant son devoir, pour la première fois de sa vie. Le sénateur. Les puissances regarderaient une telle cérémonie comme un acte insensé, et la France en deviendrait ridicule. Voix diverses au centre-gauche. C'est une fumisterie, vous parlez en fumiste. Le duc, souriant et en se détournant. Oh, ceci, messieurs, ne me blesse pas. Le fumiste. C'est de nos jours un médecin salubre qui empêche les cheminées malsaines d'empoisonner à de certaines heures, jusqu'à la mort, les habitants de la maison. Mère Monsieur Ribaud, la France ridicule, disiez-vous, alors qu'elle donnerait au monde ce magnifique exemple, le sacre d'un honnête homme. Un tel sacre rappellerait au contraire celui de Saint-Louis. Le sénateur. Mais M. Grévy est un citoyen modeste, dédaigneux de tout apparat. Le duc. Nul plus que moi, monsieur, ne rend à ce digne vieillard qu'accable un presque immérité malheur l'hommage qui lui est dû. Je veux même croire que si ses seuls intérêts étaient en cause, il préférerait sa démission à la couronne. Mais il s'agit des nôtres, encore une fois, et c'est là ce qui change la thèse. Il s'agit d'une simple mesure de tranquillité publique. Oh, ça, mais quel homme serait-ce donc, selon vous, pour qu'on n'en dût pas attendre un sacrifice de plus à son pays ? Bien que son caractère l'élevât, je pense, au-dessus des faiblesses de nos vanités, est-ce que M. Jules Grévy ne s'est pas résigné déjà à revêtir nombre d'insignes afférents à la dignité de chef d'État ? Le grand cordon de la Légion d'honneur, par exemple. Attendons-nous d'ajouter à sa louange qu'il en a fait peu de montres et qu'il le porte plus volontiers dans sa poche, un peu comme un commissaire de police porte son écharpe. Ayant remarqué sans doute que ses administrés les plus contenteurs de nos titres sont souvent les plus âpres à quêter celui de chevalier, il revêt parfois cet insigne afin de pouvoir, pour ainsi dire, leur en délivrer des fragments honorifiques. Quoi qu'il en soit, cette concession de sa part constitue un précédent sérieux, une force de chose jugée par lui. Le diadème est dans l'espace actuel est de même nature que le grand cordon ou la toison d'or. Le sénateur, en souriant et après avoir consulté du regard ses collègues, à la rigueur, puisque vous y mettez cette insistance, je le veux bien. Toutefois, je serais curieux de savoir ce qu'en pensera M. le comte de Paris. Le duc, souriant aussi. Et quoi, voulez-vous que cela l'occupe ? Sait-il pas bien, lui, d'avoir nul besoin de porter matériellement une couronne pour que tout royaliste jusqu'à la mort en aperçoive quand même sur son front l'auguste rayonnement ? Le sénateur un peu surpris. Mais ce royalisme... que vous-même représentez officiellement cette enceinte. Eh bien, mais comment le conciliez-vous? Il est des instants graves où le souci de la tranquillité publique peut entraîner des actes de trop généreux enthousiasme. Demain, peut-être, serait-il trop tard pour en profiter. La discussion pouvant être considérée comme épuisée, on est passé au vote, et à la stupeur générale, l'unanimité de la commission s'est prononcée en faveur du projet. On a procédé aussitôt à la nomination d'un rapporteur, et il va sans dire que le grand leader du centre-gauche a obtenu tous les suffrages. Aussitôt après a été désignée la délégation chargée de se présenter le lendemain à l'Élysée. Mais l'émotion dans Paris a été considérable lorsque le bruit s'est répandu de cette importante détermination et lorsqu'on a su qu'une délégation de la commission mixte s'était présentée le matin même au palais de l'Élysée pour soumettre ce vœu du Parlement à l'appréciation du président de la République. Au palais de l'Élysée, 10h du matin. Entouré de sa maison militaire et civile, M. Jules Grévy a reçu dans le grand salon d'honneur du palais les commissaires délégués avec l'affabilité courtoise qui lui est habituelle. À peine si l'on pouvait lire sur ses traits la fatigue causée par la rédaction du message qu'il nous prépare. Le rapporteur de la commission a pris immédiatement la parole et a donné lecture du rapport approuvé par la totalité de la commission. Nous devons à la gracieuseté d'un sténographe de nos amis le texte authentique de cette allocution que nous croyons devoir livrer aux méditations de nos lecteurs. L'honorable rapporteur s'est exprimé en ces termes. Monsieur le Président, convaincu que vous ne sauriez être indifférent à tout ce qui peut concourir au prestige de la France, aux destinées de laquelle vous présidez encore, nous avons l'espoir que vous accueillerez avec faveur les hautes considérations qui ont dicté la démarche que nous faisons auprès de vous. Si nous avons craint un instant que la modestie de vos goûts ne s'effarouchât d'un surcroît de dignité, nous n'avons point tardé à nous rassurer en songeant, en nous souvenant, que vous êtes de ces hommes qui ne sauraient hésiter à sacrifier à un intérêt général la simplicité de leurs louables habitudes. L'heure n'est-elle point venue, enfin, d'envisager sans illusion le rôle exact de notre pays dans le concert européen? Si nous jetons les yeux autour de nous, quel est le spectacle qui s'offre aux regards les plus désintéressés? De tous côtés, de l'Orient à l'Occident, il faut bien se l'avouer, la France se voit entourée de nations chez lesquelles la forme monarchique semble devoir encore prédominer. Quelque prestige que soit cette constatation, il est impossible de nier que le prestige de la royauté n'exerce sur les peuples voisins une influence considérable. Tout récemment encore, d'avons-nous point vu un peuple de près de 100 millions d'âmes s'exalter, s'associer avec enthousiasme à la consécration du pouvoir absolu, temporel et spirituel de l'impérial souverain. À coup sûr, l'autorité de ce chef d'État n'était pas moindre avant cette grande cérémonie. Il régnait, il gouvernait, et disposait autant qu'à présent de la destinée de ses sujets. De prime abord, cette consécration est donc dû sembler superflue, et ce souverain s'en fut certainement dispensé pour plusieurs motifs, s'il eût senti qu'il avait à respecter non seulement un usage traditionnel, mais encore à contenter les croyances naïves, les préjugés même, d'une immense majorité humaine qui ne trouve la justification de son dévouement, de son respect, de son obéissance que dans la contemplation d'un symbole. C'est donc pour accomplir une formalité haute et simple que cet homme, au mépris de tout péril, s'est revêtu des insignes de sa dignité. Est-ce que la fonction d'un despote absolu aurait droit à s'entourer de plus de respect que celle d'un magistrat gouvernant un peuple libre? S'il est un attribut de nature à provoquer chez la plupart des hommes cette intime différence, en vertu de quoi priverait-on toute une nation de la faculté de manifester elle aussi la plénitude de son hommage? Qu'importe qu'une élite ombrageuse dédaigne comme superflu les signes extérieurs de toute investiture, si la presque totalité des êtres incapables de s'élever à ces notions d'austérité s'enorgueillit d'instinct du signe suprême qu'elle attache sur le front du premier de ses élus. Oh, que ce soit d'une faiblesse, nous n'oserions le contester. Quel mortel n'a point les siennes? Il n'en est que le plus ou moins légitime. Qui ne sacrifie journellement aux habitudes générales, aux usages reçus, aux modes consacrés? Quels sont ceux qui ne subissent même pas l'esclavage de ces modes, la tyrannie du respect humain? Qu'obtient en général celui qui se soustrait de parti pris aux conventions, aux usages, aux coutumes en vogue, si ce n'est un renom de pure excentricité? Et ce besoin de se singulier et rariser, ayant pour résultat d'attirer sur soi l'attention, ne constitue-t-il pas une sorte de vanité supérieure, sans contredit, à celle de l'homme qui se vêt, par exemple, qui se costume enfin comme tout le monde, et rivalise la suprême distinction dans le simple fait de n'être point remarqué? Enfin, puisque les prétendants actuels au trône constitutionnel de France n'ont qu'une couronne de plus à faire valoir pour menacer l'ordre établi, n'est-il pas légitime de se l'assimiler au nom de la sécurité publique? Cette dernière considération a paru si concluante, si péremptoire à tous les membres de la commission, qu'elle a mis à néant les objections, d'ailleurs timides, qui s'étaient élevées dans son sein. Comment admettre en effet que le chef vénérable de notre pays ne cherche à son insu, dans l'excès de sa simplicité, qu'une occasion d'exciter la curiosité vaine, de fomenter la critique, de favoriser la décision ou les manifestes des princes, de froisser l'auguste susceptibilité internationale, d'attiser la malignité et, sinon de provoquer le scandale, du moins d'entraver à la longue le mouvement d'adhésion à la forme gouvernementale que nous devons nous-mêmes, après tout, qu'aux seules prédilections du suffrage universel. En conséquence, nous espérons, Monsieur le Président, que vous apprécierez les motifs irréfragables sur lesquels s'est étayé le projet de loi que nous soumettons à votre approbation, et nous sommes persuadés que vos scrupules à ceindre parfois votre front de couronne ne sauraient l'emporter sur le besoin si louable et si vif chez vous de passer inaperçu. En quoi l'accessoire d'une suprême dignité serait-il après tout plus inutile ou plus méprisable que cette dignité elle-même? La valeur de cette considération finale n'échappera pas à votre esprit sagace et judicieux. Aussitôt le prononcé de ce discours, un murmure approbateur accueillit la conclusion de ce remarquable rapport, dans la rédaction duquel on peut deviner aisément une de nos brillantes plumes académiques. Monsieur Jules Grévy a répondu : Messieurs les commissaires, le soin que le Parlement croit devoir prendre de ma dignité, surtout dans les pénibles circonstances que je traverse, ne saurait me trouver insensible. Quelle qu'inattendue que soit la proposition qui m'est faite, si incompatible, si contraire à ma nature qu'elle paraisse, je ne crois pas devoir me dispenser, par déférence pour la représentation nationale, d'en prendre acte et d'y réfléchir. Croyez, messieurs, que je suis touché de cette marque nouvelle de sollicitude de la part des grands corps de l'État. Quel que soit le résultat de mes réflexions, je n'oublierai pas que l'intérêt seul de la République doit dicter ma détermination. Les membres de la Commission se sont retirés fort satisfaits de l'accueil présidentiel et pleins d'espoir dans l'heureuse issue de leur démarche.